foi.
Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient.
Amen. Amen. On reprendra peut-être ce chant tout à l'heure à la fin. Je voudrais ce soir m'arrêter avec vous sur une prière qu'on retrouve souvent dans la Bible. Alors bien sûr, ça touche plusieurs domaines, mais cette prière, vous allez voir qu'on retrouve chaque fois le même mot, le même verbe. Et je voudrais tellement que cette prière, on puisse la faire nôtre, on puisse se l'approprier. Parce que je crois que si c'est écrit dans la Bible, c'est pas simplement pour être une prière qui est là, c'est pas non plus une prière à réciter, certainement pas, mais c'est une prière à s'accaparer pour la faire nôtre. Et dire, Seigneur, ça, ce qui est écrit, c'est ce que je veux vivre. Alors, ce verbe qui revient plusieurs fois dans cette prière, c'est le verbe « enseigne-moi ». D'où ce qu'on a chanté tout à l'heure, « viens me transformer ». Ouais. Parce que je crois que plus on dit au Seigneur « enseigne-moi », j'ai envie, Seigneur, que vraiment tu m'inculques tes valeurs, j'ai envie que tu m'inculques tes principes, j'ai envie que tu m'inculques ce que toi tu penses et pas ce que moi je pense. Alors, c'est comme ça qu'on grandit. Et je crois que c'est important de réaliser que si on veut grandir avec Dieu, si on veut porter du fruit, alors il faut qu'on soit enseignable. Voilà, faut qu'on soit enseignable. Je me rends compte au fur et à mesure des années, quand je dis des années, c'est pas simplement que les années de ministère, mais même depuis que je connais le Seigneur, ça commence à faire un bout, mais j'ai rencontré des tas de gens. Quand je dis des tas de gens, je parle de chrétiens. Hein, des tas de chrétiens qui avaient beaucoup de compétences, beaucoup de qualités, vraiment beaucoup de capacités, même bien plus que moi, mais dans bien des domaines. Mais le problème, c'est qu'ils n'étaient pas enseignables. Et quand on n'est pas enseignable, on peut avoir beaucoup de capacités, beaucoup de qualités, beaucoup de compétences dans tout un tas de domaines. Le Seigneur ne peut pas nous amener plus loin. Et je me rends compte que tous les gens dans la Bible, tous les hommes, toutes les femmes dont Dieu s'est servi, ce n'étaient pas forcément des gens qui étaient compétents. Ce n'étaient pas forcément, des fois oui, hein, mais pas forcément, mais c'était des gens qui étaient enseignables. Vous voyez, je pense à des gars comme Timothée. Timothée, c'est quand même le successeur de Paul. C'est quand même pas la même chose. Hein. Paul et Timothée. Timothée, il est connu pour sa timidité. Mais Paul va dire de lui, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 10, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. » Vous voyez, c'est enseignable. Vous voyez. Je pense à un gars comme Apollos. On en avait parlé une fois, dans Actes 18, vous relirez ça. Mais quand Aquilas et Priscille l'ont entendu prêcher, la Bible nous dit qu'ils l'ont pris à part et puis lui ont enseigné plus exactement la voie de Dieu. Vous voyez, il s'est laissé enseigner. Il n'a pas dit « Mais qui c'est cela? Vous n'avez rien à m'apprendre, vous n'avez rien à me dire. » Il s'est laissé enseigner. Et vous lirez ça, la Bible dit qu'à partir de là, il se rendit par la grâce de Dieu utile. Vous voyez, quand on est enseignable, on est utile entre les mains du Seigneur. Vous voyez. Et puis je pense aussi à Moïse. Alors lui, pour le coup, Moïse, lui, il était compétent. Lui, il avait des capacités, parce qu'il ne faut pas oublier, souvent on s'arrête à... Quand on parle de Moïse, on s'arrête à ce texte quand il dit « j'ai la langue embarrassée ». Mais attendez, quand vous regardez, il a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Si j'emploie un mot d'aujourd'hui, Moïse, il avait un cerveau à 3 étages. Hein. C'était... Moïse, c'était pas n'importe qui, il était puissant en œuvre et en parole, c'est écrit dans les Actes. Voyez. Mais je vois aussi que Moïse, vous rappelez cet épisode quand du matin au soir, le peuple venait le trouver. Il venait le trouver, et puis le beau-papa, il était là dans le coin, et puis il l'a regardé faire, et puis il va lui dire, qu'est-ce qu'il va lui dire? Vous rappelez? Ce que tu fais, c'est pas bien. Mais quittez-toi. Quittez-toi. En plus, Jéthro, c'était même pas un juif. Hein. C'est même pas un juif. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va écouter le conseil. Il est enseignable, vous voyez? Et Dieu s'est servi de ces gens-là, vous voyez? Et justement, je voudrais m'arrêter sur ces prières où plusieurs fois on retrouve cette parole « enseigne-moi ». Et je crois que c'est... Je voudrais tellement que les uns et les autres, et moi le premier, j'en dise « Seigneur, mais enseigne-moi, parce que je veux changer, je veux encore, Seigneur, que tu m'amènes plus loin. » Par exemple, regardez, Albert en avait parlé la dernière fois qu'il est venu, dans le psaume 90. Ces prières, vous allez voir, où on retrouve ce verbe « enseigne-moi », c'est souvent dans les psaumes. Regardez, psaume 90, verset 10, c'est un psaume de... écrit par Moïse, il est dit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Ça passe vite le temps, hein, les années. Hein. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Et là, il y a cette prière. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais Seigneur, cette prière-là, déjà, elle est tellement importante. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Je vais le dire avec mes mots. Quand je lis cette prière, comme l'impression que Moïse est en train de dire, Seigneur, le temps, il passe vite. Alors, Seigneur, enseigne-moi à ne pas perdre mon temps avec des choses qui n'en valent pas la peine. Et quand je réfléchissais à ça, je me disais, mais on a vraiment besoin que le Seigneur nous aide et nous enseigne vraiment à pas nous enquiquiner, à pas perdre notre temps, excusez-moi l'expression, à pas nous emboucaner avec des choses qui franchement n'en valent pas la peine. Il y a tellement de... Et quand on réfléchit, des fois, il peut y avoir des histoires, des problèmes, et quand on regarde, des fois, mais ça n'en vaut pas la peine, quoi. Oh là là, quand à côté de ça, le temps il passe vite, le temps il file. Hein. À côté de ça, il y a des tas de gens qui ne connaissent pas le Seigneur. À côté de ça, Jésus revient. Et des fois, on est en train de perdre du temps avec des choses qui sont tellement pas si importantes que ça, finalement. Voyez, et c'est un peu ce sens-là. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Dans l'Ecclésiaste, il y a un texte, regardez, qui m'a interpellé justement en rapport avec cette prière, enseigne-nous à bien compter nos jours. Regardez, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. On le sait, hein. Ça c'est clair. Mais regardez, ça c'est très intéressant. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Verset 6. Et regardez, ça m'a fait réfléchir. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Laisse-moi ce verset. C'est très important ce qui est écrit là. Déjà, juste, ce n'est pas mon sujet, mais ça montre une chose, c'est que des fois, il y en a qui pensent que les morts, ils peuvent voir ce qui se passe en bas. Une fois qu'on est parti, c'est terminé. Il n'y a pas de... Hein, des fois, on dit... Bon, je comprends dans le sens dans lequel c'est dit. Tu sais, ah, mais tu sais, papy ou tonton, ils te voient. Non, ils ne voient rien du tout. Ils ne voient rien du tout. Ils n'ont plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Mais ce que je voudrais qu'on retienne, c'est ça. Leur amour et leur haine. Leur amour et leur haine ont déjà péri. Et ça, derrière ce mot haine, on pourrait mettre tout un tas de choses. Leurs petites histoires, leurs petits problèmes, leurs petits quiproquos, les petits accrochages, les petits ceci, les petits cela. Voyez, ben, tout ça, c'est fini. Hein. Et quelque part, je me dis, mais quand on réfléchit à ça, je me dis, mais Seigneur, enseigne-nous. Enseigne-moi à plus m'arrêter sur des choses qui, finalement, au bout du compte, quand on réfléchit, ça n'en vaut pas la peine. Quoi. Parce que, justement, nos jours, ils sont comptés afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, afin que, Seigneur, on fasse ce que tu veux qu'on fasse et que, quelque part, on ne s'embarrasse pas de tout un tas de choses qui sont tellement, finalement, pas si importantes que ça quand on y réfléchit. Des fois, on se dit, des fois, vous pouvez avoir deux personnes qui se disputent et puis, quand on y réfléchit, vous vous rendez compte que... Finalement, à la base, c'est pas grand-chose. Mais vous voyez, des fois, on a entassé tellement de choses que c'est comme une maison. Hein. Pour ça que de temps en temps, bon, je ne vais pas dire qu'il faut déménager de temps en temps, mais c'est bien. Parce que nous, avec les déménagements, on jette. Hein. Et on jette. Hein. Et des fois, on se dit, mais t'as encore ça? Mais qu'est-ce que t'as gardé ça? Chérie, mais qu'est-ce que c'est, ça date de la guerre de 14? Tu l'as... Ah non, mais il ne faut pas jeter. Je sais, il ne faut pas jeter. Mais c'est une image, ça, c'est une image. Mais des fois, dans nos vies, c'est pareil. On a gardé des trucs. Bon, jette ça, ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Voyez, et moi, j'ai envie de dire, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous. Mais c'est important de dire... Et moi, je dis, Seigneur, de donner de l'importance à ce qu'il y en a. De donner de l'importance à ce qu'il y en a. Et je crois que c'est important, parce que parfois, en donnant de l'importance à ce qu'il y en a, les choses... Après, ça... Vous voyez, ça se résout. Le Seigneur va s'en occuper. Vous voyez, je crois que c'est important. Vous vous rappelez, un jour, on a interpellé Jésus. Et Albert en avait parlé la dernière fois de ça. On a interpellé Jésus, vous lirez ça dans Luc chapitre 12. Il y en a un qui a interpellé Jésus, qui l'a apostrophé. Seigneur, dis à mon frère de partager l'héritage. Vous voyez, les histoires d'héritage, ce n'est pas nouveau. Hein. Apparemment, ça se disputait dans la famille. Dis à notre frère de partager l'héritage. Vous vous rappelez ce que Jésus va lui dire? Mais qui m'a établi juge sur vous? Attends, je vais le lire parce que je ne vais pas faire n'importe quoi. Mais c'est ça. Qui m'a établi juge sur vous? Mais il y a la suite qui est très importante. Regardez. Ou pour faire vos partages. Qui m'a établi pour faire vos partages? Vous savez ce que ça veut dire, ça? Jésus est en train de lui dire, mais qu'est-ce que tu veux m'entraîner dans ton histoire là? C'est pas important, ça. C'est pas important. Tu veux m'entraîner dans une histoire qui est franchement pas importante. Et c'est dans ce cadre-là que Jésus va dire, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Voyez, l'important, il est ailleurs. Et moi, déjà, là, par rapport à cette prière du psaume 90, j'ai envie de dire, Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours et à m'attacher à ce qui est important. Parce que parfois, on donne de l'importance à des choses qui sont secondaires, et ce qui est vraiment important, on ne s'en occupe pas, et c'est dommage. Et déjà là, moi, j'ai envie de dire, Seigneur, change-moi, enseigne-moi, c'est tellement important. Regardez, on retrouve une deuxième prière dans le psaume 143, verset 10, psaume 143, verset 10, et là, c'est David qui dit ceci, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Et là, vous avez une prière qui est tellement importante. Tellement importante. La volonté de Dieu, c'est pas inné. Hein. C'est pas inné. Hein. Faire la volonté de Dieu, c'est facile de le dire, c'est plus difficile de le faire. Mais c'est pas inné. Hein. C'est un combat. Pourquoi? Parce que la chair, elle a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair. C'est l'apôtre Paul qui va le dire. Hein, dans l'Épître aux Romains, vous l'avez aux Galates aussi, il le dit. Il y a ce combat entre la chair et l'esprit et c'est pas évident. Et même Jésus l'a connu. Puisque rappelez-vous, à la croix, il va dire « Mais si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Il y avait ce combat qui était là. Et c'est vrai que quelque part, on est tous OK pour faire la volonté de Dieu. Je pense que ce soir, on est tous là. Si je vous pose la question, est-ce que tu veux faire la volonté de Dieu? Vous allez tous me dire oui, et moi le premier. Mais dans la réalité, ce n'est pas si facile que ça. Et je comprends David, qui a quand même l'humilité. David, c'était quand même pas rien. L'homme selon le cœur de Dieu, pour dire « Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté, parce que par moi-même, je ne peux pas. J'y arrive pas, voyez ?» Et quand je réfléchis à ça, je me dis, par exemple, si seulement un homme comme Lot avait su faire cette prière, enseigne-moi à faire ta volonté. Peut-être qu'il n'aurait pas fait le choix qu'il a fait à un moment donné et qui s'est révélé être catastrophique. Vous savez, la volonté de Dieu, parfois, ce n'est pas si évident que ça. Hein. Ce n'est pas si évident à discerner, ce n'est pas si évident à comprendre. Parlez-en à Joseph dans l'Ancien Testament. On sait, la Bible le dit, c'est l'apôtre Paul qui dit que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Mais il faut avouer que si on est d'accord avec ça, il y a des moments où on peut se poser des questions. Mais pourquoi je passe par là? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je traverse ça? Vous savez, quand je parlais de Joseph, la volonté de Dieu s'est accomplie dans sa vie. Les promesses que Dieu lui avait faites se sont accomplies. Mais entre le moment où les promesses lui ont été faites et les moments où elles se sont accomplies, la volonté de Dieu, elle s'est faite, mais ça ne s'est pas fait sans mal. Hein. Et plus d'une fois, il a dû se poser la question, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je vis ça? Pourquoi je traverse ça? Mais pourquoi je connais l'oubli? Vous vous rendez compte, quand il a été oublié dans la prison, ça a duré 2 ans, quand on l'a accusé à tort de choses qu'il n'avait pas faites, et en plus de choses pas bien jolies, vous imaginez un peu, mais il a dû se poser des questions. Pourtant, le plan de Dieu s'accomplissait. Et je crois qu'au travers de tout ça, Dieu était en train de le changer, de le transformer. Voilà peut-être pourquoi, si ce soir on vit des choses qu'on ne comprend pas, ben peut-être qu'au travers de ça, Dieu nous façonne. Et je m'y inclus dedans. Hein. Je m'y inclus dedans. C'est tellement important. Voyez, c'est pour ça que c'est tellement important de pouvoir faire cette prière nôtre. Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. Et notez bien, parce que ça aussi, il n'est pas dit enseigne-moi à connaître ta volonté. Ah oui, il est dit à faire ta volonté. Parce qu'on peut connaître la volonté pas en vouloir. On peut connaître la volonté de Dieu, mais des fois, on n'a pas envie de la faire. Parce qu'on sait que si on choisit de faire la volonté de Dieu, il va falloir qu'on coupe. Il y a des choses, il va falloir quelque part qu'on tranche. Il y a des choses, il va falloir qu'à un moment donné, on se décide, on se positionne. Et des fois, on la connaît, mais on n'a pas envie. Et David le dit bien, enseigne-moi à faire. C'est pour ça que Jésus va dire, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Vous voyez, tu es en train de dire, oui, la volonté de Dieu, c'est bien. Elle est bonne, agréable et parfaite, mais il faut la faire. Et à ce niveau-là, moi, j'ai envie de dire, Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi à faire ta volonté. Et je crois que c'est des prières dangereuses. Hein. Tout à l'heure, je parlais d'un chant dangereux, mais ça, c'est des prières dangereuses. Quand on dit à Dieu, enseigne-moi à bien compter nos jours. Ouais, d'accord, je vais te l'enseigner. Bon, mais ça, là, tu vois, tu laisses tomber. Ah ben non. Enseigne-moi à faire ta volonté. Ok. Mais Seigneur, pourquoi je passe par là? Mais c'est tellement important. Et c'est au travers de ça que Dieu fait son œuvre. Regardez, encore une autre prière dans le psaume 119. Et celle-là aussi, elle m'a interpellé. Regardez ce que dit le psalmiste. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Et là encore, je me dis, mais Seigneur, on touche à un domaine tellement important. On a besoin, en tout cas moi j'ai besoin que le Seigneur m'enseigne le bon sens et l'intelligence. Parce que parfois vous avez des histoires, vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, mais j'allais dire, c'est pas étonnant. Hein. Tout a été fait, choisi, accompli en dépit du bon sens. Donc c'est pas étonnant que la situation elle soit là où on en est, parce que quelque part ça a été fait à l'envers. Et moi je comprends cette prière, je me dis, mais Seigneur, enseigne-moi le bon sens. Il y a parfois des situations, mais je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas du tout ça qu'il fallait faire, mais il y a un manque d'intelligence spirituelle et de jugeote, des fois. Vous voyez ? Alors, on va prendre des exemples. Rappelez Roboam, ça vous dit quelque chose ? Roboam, le fils de Salomon. Pourtant, Salomon, c'est quand même pas rien. Et Roboam, il arrive derrière le père, qui, bon, avait un peu mal fini. Il arrive derrière, et rappelez-vous, on va lire quelques versets. À un moment donné, on est au début de son règne. Alors vous lirez ça à la maison, vous lirez tout le contexte, je prends juste ce qui m'intéresse. Mais le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple ? Alors là, ce qu'il fait, c'est bien. Il demande conseil. C'est bien, hein, demander conseil. Les gens qui savent tout. Hein, mais là, il fait une bonne chose. Il demande conseil. Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Regardez le verset 8. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta, et notez bien, il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Voyez ? Et vous rappelez un petit peu la suite de ce qui va se passer derrière. Ça va être la catastrophe. Son règne va partir en vrille. Il va y avoir le schisme en Israël. Il va y avoir la séparation. Enfin, c'est une cata, quoi. Une catastrophe. Hein. Mais pourquoi ? Parce qu'il a manqué de bon sens, il a manqué d'intelligence. À un moment donné, un conseil lui était donné, qui était un bon conseil, le conseil de gens qui avaient de l'expérience, des gens qui avaient vécu avec Salomon, qui avaient vu les bonnes choses accomplies par Salomon, qui avaient vu aussi un peu sa triste fin, et qui étaient à même de dire, écoute, tu vois, là, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et il met ça de côté, il balaye ça d'un revers de main, et vous rappelez un petit peu le conseil que vont lui donner les jeunes gens. « Montre-leur quitter, toi !» Montre-leur que toi, t'es pas n'importe qui. Alors je le dis avec mes mots, hein, mais c'est un peu ça. Montre-leur que toi, t'es quelqu'un. Ouf. Et parfois, il y a des situations, elles en sont aujourd'hui à ce qu'elles sont, parce que parfois par orgueil, par suffisance, par entêtement, par endurcissement, on n'a pas écouté, on n'a pas voulu écouter, on s'est endurci, mais on a manqué de bon sens et d'intelligence. D'où cette prière, Seigneur, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Par contre, je pense à cette femme qui, elle, a fait preuve de bon sens, c'est Abigaïl. Vous connaissez l'histoire, hein ? Abigaïl. 1 Samuel chapitre 25. Abigaïl qui était mariée avec cet homme, vous rappelez, Nabal ? Hein ? Alors lui, c'était un fada, lui. Hein ? Le fou. D'ailleurs, c'est ce que veut dire son nom, Nabal fou. Hein ? Voilà. Il aurait été bien dans la région, on aurait dit un fada, mais c'est ça. Hein ? Il était fou. Vous rappelez de quoi c'est parti l'histoire de Nabal et peut-être on va le lire, je ne te l'ai pas donné, regardez, 1 Samuel 25, on va quand même prendre, permettez qu'on prenne deux minutes, lire le parce que vous allez voir quand même, des fois ça part de pas grand, franchement, il y a des fois des histoires, ça part de, franchement, mais c'est nul quoi, quand on regarde, hein, et quand on voit la triste fin de Nabal, comment il a fini misérablement, et que vous voyez par où ça a commencé, vous dites, mais c'est pas possible. Ouais. Alors, on va le lire, 1 Samuel 25, verset 4. Je vous le lis. Hein. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi, pour la vie soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. » C'est sympa, hein ? Ma foi. « Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs, or tes bergers ont été avec nous, nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Et lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Et là, regardez, Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître, et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui ne sont de je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent le chemin, et ils s'en retournèrent, et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Et mes amis derrière, aïe, 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 aïe. Vous avez vu comment il parle? Le verset 11, je ne sais pas si... Ouais, le verset 11, regardez. Regardez comment il parle. Tu peux le remettre? Et je prendrai... Et mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs. Moi. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et la catastrophe est partie de là. Heureusement qu'il avait une femme qui était pleine de bon sens, Abigaïl, et qui est allée à la rencontre de David. Et regardez ce qu'elle va dire. Alors je prends juste ce qui m'intéresse. Hein. Regardez. David dit à Abigaïl, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, voyez, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu n'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigaïl ce qu'elle lui avait apporté, lui dit, monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Voyez, béni soit ton bon sens. Je veux dire, elle a fait simplement fait preuve d'intelligence, de bon sens. Voyez, je veux dire, et à cause de ça, elle a évité un carnage. Parce que ça aurait été un carnage, hein. Et je me dis, des fois, il y a des situations, ça pourrait être évité, ça pourrait être autrement, si simplement il y avait un peu de bon sens, de jugeote, d'intelligence. C'est pour ça que cette prière, et j'y reviens, mais elle est importante, Seigneur, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a une part de folie. Quand on n'est pas régénéré par la grâce de Dieu, mais il y a une part de folie. D'ailleurs, la Bible dit, le cœur de l'homme, il est tortueux, il est méchant par-dessus tout. Et c'est vrai, des fois on dit, mais c'est pas possible, quand on voit telle histoire, tel problème, tel ceci. Mais d'où l'importance de dire, Seigneur, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Et le psalmiste, il avait raison. Et moi, j'ai envie de dire, Seigneur, enseigne-nous, enseigne-moi. Seigneur, à faire preuve comme Abigaïl de bon sens dans cette situation, à être des instruments de bénédiction, être des instruments de paix, des instruments qui amènent la grâce de Dieu. Hein, Nabal, ben, ça a mal fini, quoi. Ça a mal fini. Hein. Regardez, on continue, je ne m'y arrêterai pas, mais quand même, il faut y réfléchir. Dans le psaume 25, on retrouve la même chose. Voyez. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Voyez. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Voyez, vous trouvez, enseigne-moi, encore une fois, enseigne-moi tes sentiers. Mais c'est important, parce que on se rappelle tous ce que Isaïe a dit. Tes voies ne sont pas nos voies, tes pensées ne sont pas tes pensées, et nos sentiers ne sont pas ces sentiers. D'où l'importance de dire, Seigneur, enseigne-moi, parce que des fois, on croit savoir, on croit que c'est bon, et c'est pas bon. On croit être sur le bon chemin, et on est à côté. D'où l'importance de dire, Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi, afin que si je ne suis pas sur un bon chemin, hop, ben, tu me montres ce qu'il faut et que je puisse me diriger dans ce qui sera bénissant et de ce qui bénira les autres. Voyez ? Mais Seigneur, enseigne-moi. Et regardez, un petit peu plus bas, toujours dans ce psaume, 25, verset 9, regardez. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Vous voyez, on revient à ce que j'ai dit en introduction. Il enseigne à qui ? Aux humbles, c'est-à-dire à ceux qui sont enseignables. Voilà. Ceux qui sont enseignables, alors le Seigneur peut les enseigner. Ceux qui croient tout savoir, qui savent tout, qu'on ne peut rien leur dire, ben le Seigneur ne peut pas. On ne peut pas, vous voyez. Et moi, j'ai envie de dire, mais Seigneur, aide-moi, aide-nous, parce que Seigneur, des fois, c'est pas si évident que ça. Des fois, on ne sait pas quoi faire, comment faire. Des fois, on pense qu'on fait bien, et puis on ne fait pas toujours bien. Alors Seigneur, enseigne-moi. Et c'est là que le Seigneur nous change. C'est là que le Seigneur nous transforme, vous voyez. Et puis, je vais terminer par un dernier texte, cette fois dans le Nouveau Testament, parce que vous allez me dire, j'ai tout pris de l'Ancien, mais un jour, les disciples, ils ont quand même fait une prière au Seigneur. Ils ont dit enseignement au Seigneur. Luc, chapitre 11, verset 1er. Jésus priait un jour en un certain lieu, Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Alors, je ne sais pas, j'ai réfléchi un peu à ça. Je me suis dit, Jésus priait un jour en un certain lieu et je me suis posé la question, est-ce que les disciples étaient là en train de regarder, d'écouter, etc. Ils ont été impressionnés, je ne sais pas exactement si c'est comme ça que ça s'est passé, mais ça a débouché sur cette prière, « Enseigne-nous à prier. » Moi, j'ai envie de dire, « Seigneur, enseigne-moi à prier. » Enseigne-moi à prier. C'est important, ça. D'ailleurs, c'est de là que va découler derrière le Notre Père, pas pour être récité. Mais c'était une manière de nous montrer dans quel sens aller au niveau de la prière. Et c'est important. Notre Père, déjà la première chose que Jésus a voulu montrer par cette prière, c'est de réaliser que quand on prie, mais c'est dans une relation avec notre Père qu'on rentre. C'est déjà, rien que dans cette prière, notre Père, ce n'est pas un Père, c'est notre Père. La prière, c'est une relation que j'ai avec Dieu. Déjà, rien que ça, on peut faire tout un message là-dessus. Vous voyez, et Jésus va l'enseigner. On a besoin de dire, Seigneur, enseigne-nous. Hein, mais dans le sens de, Seigneur, enseigne-nous à prier d'une manière inspirée. Enseigne-nous à prier d'une manière inspirée. Vous voyez, Dieu aime la prière. Il y a tellement de textes qui montrent qu'on est invité à prier, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Je vais le dire, comment je vais dire ça ? Il y a des prières, ce n'est pas des prières inspirées. Alors je vais vous citer quelques... telles que je l'ai écrit. Hein, et vous allez comprendre. Il y a des prières, pour moi, la prière, ce n'est pas ça. Vous voyez, par exemple, ce que j'appelle la prière information. Je vais même le dire avec mes mots à moi, la prière journal de 13 heures. Et Seigneur, et tu vois que j'ai dit ça, il m'a dit ça, et donc je lui ai dit ça, et il m'a répondu ça. Mais c'est pas une prière, ça. C'est on est en train d'informer tout le monde. D'abord, comme si le Seigneur, il ne le savait pas. Oui. Alors bon, ça nous fait sourire, je fais exprès de... Mais c'est pas prier, ça. C'est la prière information. Comme ça, tout le monde est au courant qu'il a vu un tel et puis qu'il lui a dit ça et que l'autre, il lui a répondu ça et que l'autre... C'est pas de la prière, ça. Oui. Il peut y avoir aussi la prière règlement de compte. Vous allez me dire, est-ce que ça existe ? Oui, ça existe. Ouais. Pour avoir entendu ce genre de prière, ça... C'est pas une prière inspirée, je m'y arrêterai pas parce que c'est pas glorieux. Ouais. Il y a la prière que j'appellerais la prière confiture. On étale tout. Hein. On étale toute sa science, toute sa connaissance théologique. Mais le Seigneur aime ceux qui prient avec un cœur simple, comme des enfants, avec nos mots. Moi, je remarque que la simplicité dans la parole, c'est ce que Dieu aime. Et un cœur simple, on n'a pas besoin des fois, c'est compliqué, Seigneur. Hein. Il y a aussi, vous en avez d'ailleurs, il y a un exemple dans la parole, la prière justificative. Voyez, vous rappelez la parabole que Jésus a donnée, le pharisien et le publicain, je te loue de ce que je ne suis pas, comme le reste des hommes, tatati, je jeûne, je fais ceci, je fais cela. Ça, c'est une prière justificative, ça. Je me justifie. Mais ce n'est pas ça. Voyez. Et puis vous avez aussi la prière interminable. Je crois qu'il y a des prières, c'est à la maison. Quand on est ensemble, il y a des choses, on n'a pas à les dire. Quand on est dans la chambre tout seul, dans la chambre ou le bureau ou la voiture, comme vous voulez, ou dans la nature, on peut tout dire au Seigneur. Et on peut rentrer dans tous les détails si on veut. Bon, le Seigneur les connaît, bon. Mais si on veut, là on est tout seul, c'est entre nous et lui, on peut y rester pendant 3 heures et on peut rentrer dans tous les détails. Mais je crois que quand on est tous ensemble, il y a des prières, franchement. Des fois c'est interminable. Des fois on m'a eu dit, mais c'est vrai, hein. Alors bon, ça peut arriver, des fois on ne s'en rend pas compte, mais on donne, je ne sais pas moi, 7-8 sujets de prière, on va prier pour ça, et puis la personne, parce qu'elle est animée de pleine bonne intention, et puis elle prie pour tchoc, pendant 10 minutes, et puis vous arrivez derrière, vous dites, pourquoi je vais prier ? Elle a prié pour tout, alors. Et, mais, bon, j'y mets un peu d'humour, mais moi j'ai envie de dire, Seigneur, enseigne-nous à prier, des prières inspirées. Des prières qui viennent du cœur, des prières que tu agrées. Voilà. Alors après, j'espère que je bloque personne. Je ne veux pas que ce soit mal interprété. Il analyse les prières. Non, je n'analyse pas les prières. Mais Mais Seigneur, aide-nous, enseigne-nous à prier. Et je crois que les disciples, quand ils ont dit ça au Seigneur, ils ont été marqués par la vie de prière de Jésus. D'ailleurs, regardez la vie de prière de Jésus, elle est remarquable. Comment Jésus priait. Et les disciples, certainement, ils ont été impressionnés par ça, de la relation qu'il avait. Et pour moi, la prière, c'est la relation avec Dieu. Voilà. Et quelque part, moi, j'ai envie de dire, Seigneur, enseigne-nous à prier, Seigneur. Vraiment, là aussi, à être simple, mais avec un cœur qui t'honore. Et ces prières-là, Dieu les exauce. Regardez, en ce moment, je relis l'évangile de Luc. Et franchement, quand vous voyez certaines prières, c'est simple, hein. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Eh bien, purée, comme prière plus simple que ça, tu meurs. Hein. Mais tchac, voyez. Alors vous allez me dire, oui, mais il a manifesté la foi. Oui, mais c'est une prière simple. Jaïrus, viens avant que mon enfant ne meure. Vous voyez, c'est pas compliqué comme prière. Il a pas pris toute la tangente et le truc et le machin pour expliquer que l'enfant était en train de ceci et puis elle avait ça. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de prière information. Il a pas dit à Jésus, tu sais, ma fille, elle a ça. Et puis le bilan de santé, il dit ça. Et puis d'ailleurs, on ne sait même pas ce qu'elle a, cette gamine. L'histoire de Jaïrus, on ne sait même pas ce qu'elle a eu. Mais parce que ce n'est pas ça le plus important. Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Qu'est-ce que fait Jésus? Il y va. Moi, j'ai envie de dire, Seigneur, enseigne-moi à prier. Enseigne-nous à prier. Des prières qui touchent ton cœur, des prières qui amènent la gloire de Dieu, des prières qui font que le Seigneur ne peut faire autrement que d'étendre sa main. Et moi, j'ai envie de dire, Seigneur, enseigne-nous. Voyez, toutes ces prières-là, enseigne-moi. Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Mais tout ça, ça amène le changement dont on a parlé tout à l'heure dans le chant. Seigneur, viens me transformer. Je suis convaincu que si vraiment il y a dans notre cœur ce désir de dire Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, ça fait encore longtemps, ça fait des années qu'on marche avec Dieu. Et alors, Seigneur, enseigne-moi. Moi, je me dis, Seigneur, j'ai encore besoin que tu m'enseignes parce que si on pense qu'on est arrivé au bout, qu'on sait tout, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides et que tu m'enseignes. Et je voudrais tellement qu'encore ce soir, on puisse dire Seigneur, enseigne-nous, enseigne-moi. Seigneur, a bien compté mes jours. Seigneur, je ne veux plus m'arrêter à des choses qui n'en valent pas la peine. Seigneur, enseigne-moi aussi à faire ta volonté. Ta volonté, Seigneur. Seigneur, aide-moi. Et si je ne suis pas, eh bien, Seigneur, montre-moi-le. Voilà, Seigneur, hop. Si j'ai pris une bifurcation qu'il ne fallait pas, ben, Seigneur, aide-moi à revenir, etc., etc. Et c'est comme ça que Seigneur nous change. C'est comme ça que Seigneur nous transforme. Mais il faut avoir ce cœur enseignable. Et moi, j'ai envie de dire, Seigneur, enseigne-nous. Et je voudrais que ce soir, peut-être, on puisse... Peut-être par rapport à tout ça, ben, prendre encore quelques instants, on peut prendre 10 minutes encore devant le Seigneur et puis dire Seigneur, mais c'est ce qu'on veut, c'est ce que je veux, si tu peux revenir. Peut-être juste, on va dire Seigneur, viens me transformer encore, mais toutes ces prières, elles sont là, elles sont dans la Bible, pas simplement pour qu'on les lise et pour qu'on se dise c'était des belles prières, hein, mais c'est pour qu'on les fasse nôtres et dire ben, Seigneur, ouais, c'est pour moi aussi, et je veux les faire miennes. Et ce que ces hommes ont fait monter, ce que les psalmistes, Moïse, ce que David a fait monter devant toi, ce que les disciples ont fait monter devant toi, enseigne-nous à prier. Ben Seigneur, moi je veux te le dire aussi ce soir, pour ma vie, Seigneur, enseigne-moi encore, Seigneur. J'ai encore des progrès à faire, il y a encore des choses, je n'ai pas tout saisi, je n'ai pas tout compris, Seigneur, mais enseigne-moi. Et le Seigneur, il le fait. Seigneur, il le fait. Et c'est bon quand le Seigneur, il le fait. Alléluia. Alors laissons-nous changer encore, Seigneur. Je te prie encore, Seigneur, de nous aider. Je réalise encore, Seigneur, ce soir qu'il y a encore tellement de lacunes, Seigneur. Tu pourrais me dire, peux mieux faire. Tu pourrais, dans d'autres domaines, dire, c'est insuffisant. Peut-être dans d'autres domaines, dire, c'est bien. Mais Seigneur, quoi qu'il en soit, je veux te dire, Seigneur, viens me transformer encore. Enseigne-moi. Seigneur, à faire ta volonté, pas simplement à la connaître, pas simplement à savoir des principes, mais à la faire, Seigneur, comme toi tu l'entends. Enseigne-nous, enseigne-moi tes sentiers, Seigneur, parce que tes voix ne sont pas nos voix, tes pensées ne sont pas nos pensées. Enseigne-nous, Seigneur, afin qu'on ne soit pas à côté, Seigneur. Je te prie peut-être pour quelqu'un ce soir qui peut-être attend une direction, peut-être est dans le brouillard, pour que tu l'éclaires, pour que tu le diriges. Peut-être quelqu'un qui est dans une situation compliquée pour que vraiment, Seigneur, tu l'aides. Que tu lui montres le chemin à suivre. Que tu lui montres la direction à prendre. Peut-être quelqu'un est devant un choix, Seigneur. Que tu l'aides à prendre les bonnes décisions, Seigneur. Donne-moi du bon sens, de l'intelligence, Seigneur. Comme on l'a lu, enseigne-moi ça, Seigneur. Afin que je ne fasse pas comme Roboam, Seigneur. Mais que vraiment, Seigneur, puisse manifester du bon sens. Seigneur, viens nous aider là où nous en sommes, Seigneur. Viens nous changer encore. Viens nous transformer, Seigneur. Afin que nous soyons vraiment, Seigneur, à ton image, Seigneur. Que nous te ressemblions, Seigneur. C'est ma prière, Seigneur. Viens m'aider, Seigneur. Viens m'aider, Seigneur. Alléluia. Je voudrais juste peut-être, alors prendre juste une fois, juste, viens me changer, viens me transformer. Prends la place qui te revient. Et puis après, si quelques-uns veulent simplement prier, dire Seigneur, viens, ben, faites-le. Alléluia. Hein, qu'on puisse vraiment encore prendre quelques instants devant Dieu pour dire Seigneur, change-moi encore. Enseigne-moi. Alléluia.
Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient.
Vois ma vie,
vois ma vie. Elle est à toi. Vois mon cœur tourné vers toi.
Seigneur, alléluia, Seigneur, viens, Seigneur, enseigne-moi, Seigneur, alléluia, Jésus. Seigneur Jésus, Richa Barikeri Barasorika Barantaraso, Seigneur, à toi la gloire, Seigneur Jésus, Jésus, alléluia, Jésus. Oui, viens, Seigneur, change-moi, Seigneur, encore.